Une bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Le neveu de Paul, le fils de sa sœur, a bien rempli sa mission. Il est allé voir le tribun. Le tribun le croit, lui demande de garder le secret, de ne parler à personne de cette conjuration des 40 contre Paul. Et la suite, comme un véritable drame shakespearien, va se dérouler. Il va falloir, puisqu'il faut aller à Rome, d'après la révélation de Jésus de Nazareth à son apôtre pendant la nuit, il va falloir trouver le chemin. Alors, il n'y est pas encore arrivé, vous verrez, il va falloir encore traverser pas mal, j'allais dire, d'épreuves, comme des examens. Il va falloir qu'il passe ses examens d'apôtre. C'est ce que nous commence à nous raconter l'épisode qui suit maintenant.
Césarée. Alors que le neveu de Paul était en train de dévaler les marches de marbre qui mènent à l'Antonia, le tribun Claudius Lysias appelait deux des centurions pour leur donner les ordres suivants. « Tenez prêt, à partir pour Césarée dès 9 heures ce soir, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 auxiliaires. » C'est dire l'importance qu'il accordait aux prisonniers. Qu'on prépare aussi des montures pour conduire Paul sain et sauf au gouverneur Félix. Exécution. Il craignait en fait non seulement que les Juifs n'assassinèrent Paul, mais qu'en plus on ne l'accusât lui-même d'avoir touché de l'argent. Pour le tout, il transférait le cas à l'autorité supérieure, le gouverneur Félix, ministre de Néron et procurateur de Judée. Il écrivit même une lettre d'accompagnement, habilement tournée, dont voici le texte. Claudius Lysias, à son excellence le gouverneur Félix, salut. Les Juifs s'étaient emparés de l'homme que je t'envoie, et ils allaient le supprimer quand je suis intervenu avec la troupe pour le leur soustraire, car je venais d'apprendre qu'il était citoyen romain. Comme j'étais décidé à savoir de quoi ils l'accusaient, je l'ai fait comparaître devant leur sanhédrin. J'ai constaté que l'accusation portait sur des discussions relatives à leur loi, à Moïse et à un certain Jésus, mais sans aucune charge qui mérita la mort ou les chaînes. Informé qu'on préparait un attentat contre cet homme, je te l'envoie tout en signifiant aux accusateurs d'avoir apporté plainte contre lui devant toi. Adieu. Les soldats exécutèrent les ordres à la lettre. Ils conduisirent Paul de nuit à Antipatris, et le lendemain, laissant les cavaliers continuer avec lui, ils revinrent à la forteresse. Dès leur arrivée à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur prit connaissance de la lettre et demanda de quelle province Paul était originaire, informé que c'était de Cilicie. « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs aussi seront là. » Il donna l'ordre de le garder dans le prétoire d'Hérode, un palais de ce roi mégalomaniaque devenu la résidence du procurateur de Judée. Pas plus de 5 jours plus tard, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec quelques anciens ainsi qu'un certain avocat du nom de Tertullus. Ils portèrent devant le gouverneur contre Paul. Ce dernier fut convoqué et Tertullus commença son réquisitoire dans les meilleures règles de la rhétorique. « Grâce à toi et aux réformes que tu as eu soin d'opérer en faveur de ce peuple, nous jouissons d'une paix complète, toujours et partout. »« Excellent Félix, c'est avec une vive reconnaissance que nous accueillons ces bienfaits. » Personne n'était dupe, et Félix tout d'abord, qui se savait violent et sans scrupules. Pour ne pas trop t'importuner, l'exposé sera bref, auquel je te prie d'accorder l'attention bienveillante que nous te connaissons. Tertullus se racla légèrement la gorge et continua. Nous avons découvert que cet homme était une peste, qu'il provoquait des émeutes parmi tous les Juifs du monde, et que c'était un chef de file de la secte des Nazaréens. Il a même tenté de profaner le temple, et nous l'avons alors arrêté pour le juger contre notre loi. Mais le tribun Lysias est intervenu, nous l'a enlevé violemment et a renvoyé ses accusateurs devant toi. Tu pourras toi-même l'interroger pour voir se confirmer tous nos griefs contre lui. » Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire en déclarant qu'il était objectif. Sur un signe du gouverneur qui l'invitait à parler, Paul répliqua sans faillir, lui non plus, aux règles du genre. « Je sais que tu assures la justice à notre nation depuis de longues années. C'est donc avec confiance que je vais défendre ma cause. Tu peux le vérifier, il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer. Et ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, personne ne m'a surpris en train de discuter avec quelqu'un ou d'ameuter la foule. Ces gens sont tout à fait incapables de prouver les accusations qu'ils portent actuellement contre moi. » Un silence. Puis la voix de Paul changea. « Voici ce que je reconnais. Je suis au service du Dieu de nos pères selon la voie qu'eux qualifient de secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. J'ai cette espérance en Dieu, et eux aussi la partagent. C'est qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce, moi aussi, de garder sans cesse une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Après de longues années, j'étais revenu apporter des aumônes à mon peuple ainsi que des offrandes, allusion à la collecte et au rite de purification. C'est alors que l'on m'a trouvé dans le temple, au terme de ma purification. Il n'y avait ni attroupement, ni tumulte, mais certains Juifs d'Asie. » Le ton devint alors résolument accusateur. « Ce sont eux qui auraient dû se présenter devant toi pour m'accuser, si toutefois il y avait eu quelque chose à me reprocher. Ou alors, qu'ils disent, ceux qui sont là, qu'ils disent quel délit ils ont découvert quand j'ai comparu devant le Sanhédrin. Serait-ce cette seule phrase que j'ai criée debout au milieu d'eux, « C'est pour la résurrection des morts que je passe aujourd'hui en jugement devant vous ?» Par cette conclusion habile, Paul essayait de ranimer la controverse et ramener toute l'affaire à une question de doctrine proprement juive, sans intérêt pour la justice romaine. Mais Félix, parfaitement au courant de ce qui concernait la voie, les ajourna. « Je jugerai votre affaire quand le tribun Lysias sera descendu ici. » Il donna l'ordre au centurion de garder Paul en prison, mais avec un régime libéral, sans empêcher ses amis de s'occuper de lui. Quelques jours plus tard, Félix se trouvait en compagnie de Drusille, sa femme qui était juive. Drusille était la fille cadette du roi Agrippa I, qui l'avait mariée au roi des Mèses, et à qui Félix l'avait enlevée pour des intrigues scandaleuses. Félix fit convoquer Paul pour l'écouter parler de la foi au Christ Jésus, mais comme l'entretien s'orientait vers la justice, la maîtrise des instincts et le jugement à venir, Félix fut saisi d'une crainte multiple. Il interrompit Paul. « Maintenant retire-toi, je te rappellerai à la prochaine occasion. » Il n'en espérait pas moins que Paul lui donnerait de l'argent, aussi le faisait-il venir, et même assez fréquemment pour le rencontrer.
c'est vraiment, enfin, vous l'avez entendu vous-même, c'est vraiment un script de cinéma. Les répliques ont été écrites avec un soin extraordinaire. L'avancée de Tertullus, avec les effets de manche, devant le prétoire qui est là, et les salutations à l'ancienne, alors que tout cela n'est que goujaterie et puis duplicité. Tout le monde sait la varice et la perversité de Félix. Et puis ensuite, Paul, qui se présente de nouveau avec l'aisance de celui qui est en train de manipuler l'Assemblée, parce qu'il va essayer de relancer le débat par rapport à la résurrection des corps. Mais il faut gagner du temps. Lysias n'est pas descendu. Les accusateurs sont là après 5-6 jours. Il a un régime de faveur. Il faut qu'il joue les diplomates. Et voilà même qu'il... il ne perd pas de temps pour faire une leçon, sinon d'éthique ou de morale, en tout cas de catéchèse, puisque Drusille, vous l'avez entendu, qui était fille d'Agrippa Ier, juive, avait été enlevée par Félix à son mari d'Émèse, pour toutes sortes de raisons dont on peut deviner ici, à la fois la portée et puis la noirceur. Et Paul, qui est invité à parler avec Félix, par Félix lui-même, dirige un peu toutes les entretiens sur la justice, la maîtrise des instincts, le jugement à venir, et Félix commence à avoir peur de se voir condamné, lui, procurateur de Judée. Alors il l'écarte, mais en même temps le fait revenir plusieurs fois, nous dit le texte, parce qu'il espère bien que pour sa libération, Paul ou ses amis soient prêts à verser de l'argent. Vénalité. Tout est tordu jusqu'ici. Mais il joue sa peau. Paul est conscient que s'il passe par Césarée et qu'il soit condamné ici par le gouvernement romain et par un homme qui est prêt à recevoir toutes sortes de cadeaux pour pouvoir faire diriger la justice dans le sens qui l'intéresse lui, il est fichu. Ça va être tout l'entretien qui va suivre dans les quelques années. Il restera au moins 2 ans à attendre son départ pour Rome, qu'il va réclamer lui-même. Mais ceci est l'affaire de la suite, vite, 2 ans plus tard.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.